Le livre d'Exode, au chapitre 19, c'est notre texte. Mais on va finir avec un autre chapitre qui va être le clou du... pas un spectacle, le clou du message. Puis c'est pas un clou dans le cercueil non plus, là. On n'enterre pas personne. Alors, on va lire, on est dans Exode 19, on va lire les versets 16 à 20. Je suis content qu'on ait pu lire l'ensemble du chapitre tantôt avant la prière. Là, on ne va pas tout couvrir le matériel du chapitre 19, ce n'est pas le but du message. Mais pour s'introduire, nous lisons les versets 16 à 20. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. On te remercie, Seigneur, de ce que ce matin, toi, avec ce texte et plus aussi qu'on va considérer ce matin, des choses sur mesure pour chacun de nous. Je crois... Je suis convaincu. Seigneur, tu es le Dieu souverain et tu parles personnellement à chacun. Même ceux qui ne te connaissent pas encore, tu les interpelles, tu les appelles à la croix du calvaire. Et merci que cette montagne qui est épouvantable, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le passage obligé vers la croix, vers le besoin de la grâce. Et donc, Seigneur, ouvre nos yeux, tous et chacun ici. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, on veut... voir les splendeurs de la nouvelle alliance, de ce que tu es, Seigneur, de ce que tu révèles pleinement par la croix du calvaire. Merci, Seigneur, pour ce temps. Guide-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Créé pour la gloire de sa sainteté. Alors, bien ici, évidemment, on a une scène qui est terrifiante. On parlait de spectaculaire la semaine dernière. Il y avait le spectacle assez unique de la mer qui se sépare avec la mer rouge. On a vu ça le premier message de l'année. La semaine dernière, on était plutôt dans le désert, puis là, c'était moins spectaculaire. Mais là, ici, une montagne en feu qui tremble. Ça devait être assez impressionnant. Et donc, c'est une des scènes spectaculaires. Je me suis demandé, c'est quoi le film des 10 commandements? J'ai pas vu ça, mais c'est un vieux film, puis je sais pas comment ils faisaient les effets spéciaux, là. Mais c'est dans le film, puis en tout cas, je ne sais pas à quoi ça ressemblait, là. Mais tu sais, ben, c'est terrible, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas encore les... c'est ça, il n'y avait pas encore les machins générés par ordinateur, là. CG, là. Computer Generated. Donc, je le disais tantôt et je le rappelle très brièvement, on a ici la montagne, puis on a l'Éternel qui parle. Et donc, on a deux symboliques qu'on voit à travers les Écritures qui sont... constante. La montagne, quand on voit des montagnes dans la Bible, c'est là où l'on rencontre Dieu. Hein, comme justement, verset 20, Moïse monte à la rencontre de Dieu. Dieu l'appelle, il monte à la rencontre de Dieu. Comme Abraham est monté avec son fils à la rencontre de Dieu. On a même une chanson. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. La montagne, c'est aussi où la gloire de Dieu est révélée. Comme ici, là, la gloire... de sa sainteté. Mais on voit évidemment aussi dans le Nouveau Testament, Jésus qui a monté sur la montagne et on a ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus qui était, dans son corps humain, mais en même temps qu'il a levé un peu le voile pendant un instant sur sa gloire, sur cette montagne qu'on appelle le mont de la transfiguration. Mais aussi, et c'est le plus important, la montagne de Dieu, c'est là où l'Éternel pourvoit. Et Abraham a dit ça, voilà 5000 ans, mais C'est ça, 5 ou 4, je ne veux pas me tromper, là. En tout cas, mais le 2000 ans, le plus grand-père avec le plus grand-fils de True and Better, là, le meilleur et le plus grand, Dieu a offert son fils sur le mont du Calvaire. Et donc, ça, c'est la symbolique de la montagne. Dieu nous rencontre, Dieu se révèle et Dieu pourvoit. Mais aussi la symbolique de la parole, parce que là, Dieu a des choses à lui dire, puis c'est assez épeurant ça aussi. C'est épeurant ou spectaculaire. Parce que la symbolique de la parole, c'est Dieu qui nous révèle qui il est. Vous savez que si on n'avait pas la parole de Dieu, on ne pourrait pas savoir qui Dieu est. Parce que l'imagination humaine est idolâtre. On s'imagine des dieux qui ne sont pas des dieux, mais Dieu s'est révélé de façon surnaturelle par sa parole. C'est notre conviction profonde en tant que chrétien que ce qu'on tient ici dans nos mains, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu aux hommes. Donc on a la révélation de qui Dieu est réellement. Donc la parole de Dieu fait ça. Évidemment, on a ça dans notre texte ici, Dieu qui se révèle, qui parle. Puis, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Bien, Jésus est la parole qui a été faite chair. Puis aussi, on peut, ça c'est le prologue de Jean, dans Jean 1. « Car la loi a été donnée par Moïse, comme on le voit ici. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » La parole incarnée, hein? Et donc, Dieu nous révèle qui il est dans sa parole, puis aussi, il nous révèle qui nous sommes. Ici, c'est un spectacle, il était tout saisi d'épouvante parce que, oh, je veux dire, Dieu est là, il est saint, et moi, je ne suis pas comme Dieu. Donc, ça révèle notre état. Et ça aussi, le Nouveau Testament en parle, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, la parole nous révèle qui nous sommes. Et encore là, le plus important, la parole nous révèle la délivrance de Dieu. Parce que quand on voit qui Dieu est et qui nous sommes, ça ne va pas bien. Dieu est trois fois saint, nous ne le sommes pas. Mais gloire à Dieu, la parole nous révèle la rédemption, la délivrance. La condamnation qu'on mérite n'est pas la fin de l'histoire. La grâce de Dieu a pourvu la délivrance. Et ici, Moïse est un peu comme un type de Jésus qui va à la rencontre, qui est celui qui intercède, qui est celui qui est entre Dieu et le peuple. Et Moïse, encore là, c'est le moindre. Jésus est le plus grand et le meilleur Moïse qui est allé pour nous devant le Père et qui s'est offert lui-même. Lui, le parfait souverain sacrificateur. Bon, je n'ai pas fini mon intro, juste deux, trois petites choses encore. Donc, on est ici, c'est l'histoire de la rédemption. Hein? Ici, dans Exode, on est au cœur de l'histoire de la rédemption, qui est quand même à ses débuts. Mais qu'est-ce que ça révèle en particulier ici? La sainteté de Dieu, ou son unicité, sa singularité. Personne n'est comme l'Éternel. D'où l'idée, nous sommes créés pour sa sainteté. On va voir ça dans le message. Et ici, la gloire de la sainteté de Dieu, c'est la base de la relation d'alliance qu'il a contractée avec Israël. Parce qu'il communique ici à Israël, « Hey, j'ai une alliance avec vous, mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas comme les dieux des nations. Je ne suis pas une idole. Je suis le Dieu trois fois cinq, je fais trembler les montagnes. Puis le feu tombe du ciel. Il n'y a pas une idole qui fait ça. » OK? Fait que ça montre... Je suis unique. Il n'y a pas personne comme moi. Ce n'est pas juste pour faire un spectacle, c'est pour montrer qu'il est le Dieu unique et incomparable. Évidemment, il y a la loi aussi qui est donnée, puis tout ça, puis ça aussi, c'est unique. On va parler de ça dans un instant. Puis, si on avance dans l'histoire de la rédemption, bien, la nouvelle alliance, bien, c'est le sommet inégalé, veut dire l'alliance parfaite, contractée par Dieu lui-même, à la croix du calvaire. Tout ça est l'ombre des choses qui étaient à venir et en préparait la venue. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on comprend la sainteté de Dieu, il y a deux choses importantes à comprendre. La sainteté de Dieu, puis on voit ici, ça l'appelle à la révérence, au respect, à l'obéissance. Dieu n'est pas négociable, on ne peut pas l'acheter. Quand Dieu se révèle, toute bouche se ferme. Donc, il y a cet aspect-là. Mais aussi, la sainteté de Dieu nous rappelle que Dieu est bon et plein de grâce. Parce que, et ça, on va le voir plus à la fin du message dans le livre d'Exode. Ici, il révèle ici comment il est terrible, mais aussi on voit qu'il est miséricordieux. On va voir ça à la fin du message. Et savez-vous quoi? Tout ça est parfaitement réconcilié, accompli dans la croix du calvaire, où est-ce que le Dieu trois fois saint qui doit punir le péché et qui aime le pécheur a réconcilié ça en mourant à notre place. C'est la parfaite solution de Dieu. Donc, ça m'introduit à tout ce qu'on va regarder ensemble. Et nous sommes ici dans l'ombre des choses à venir, mais les leçons sont riches et on va les voir ensemble. Mais effectivement, on va aller dans Hébreux 12 et dans un instant, mais j'aimerais avec vous regarder dans ce message trois gloires de la sainteté de Dieu pour lesquelles nous sommes créés. Trois gloires de la sainteté de Dieu. D'abord, la gloire de sa sainteté inaccessible. Et oui, et justement, si je lis Hébreux, que notre frère a lu tantôt dans la prière, dans Hébreux 12, on commence au verset 18, ça dit, vous pouvez y aller si vous voulez, mais je vous lis, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Ça, là, c'est ce qu'on vient de lire dans Exode 19, OK? La montagne est effrayante, OK? « Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Ça, c'est la scène d'Exode 19. Paul, ou l'auteur d'Hébreux, nous en parle. Puis là, on a un « mais ». Un « mais » de transition, un « mais » qui change l'état des choses. « Mais vous, Hébreux 12, 22, vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Une qu'on ne pouvait pas s'approcher, l'autre qu'on peut s'approcher. De la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge et le Dieu de tous, de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mais vous, donc ici, ce qu'on a, on a le contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et le contraste entre la nouvelle et l'ancienne alliance, ce n'est pas une question de grande gloire et de plus petite gloire, parce que Dieu, ça, et là je vais vous dire un mot, sa gloire, elle est inhérente, intrinsèque, il est glorieux. Je veux dire, dans l'ancien, dans le Nouveau Testament, Dieu est Dieu, puis il est toujours glorieux. Il a toujours été, puis il va toujours le demeurer. OK? Donc, c'est pas parce que Dieu était plus glorieux dans un puis moins glorieux dans l'autre. Non, Dieu est glorieux, point final. OK? Mais la différence entre les deux, c'est l'accès à cette gloire. Le point de Exode 19, c'est « Je suis glorieux et je suis donc inaccessible. » C'est une gloire inaccessible. Et c'était le point de la montagne, c'était montré « Je suis tellement glorieux, là, je suis pas comme les autres, vous pouvez pas vous approcher de moi. » C'était le point. OK? Ça disait « Vous avez besoin d'un médiateur. » Puis Moïse était juste temporaire. C'était le médiateur en attendant. Puis déjà, tu sais, on voit que tout est imparfait là, avec Moïse, là. OK? Mais c'est ça la leçon principale, c'est l'idée d'accès à Dieu. Il n'y a qu'un, puis encore là, tu sais, on voit avec l'histoire de l'Exode, c'était pas parfait. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, puis qui nous donne un plein accès. Puis c'est pas fluctuant, c'est parfait. OK? Et donc, contrairement ici dans Exode, on peut s'approcher. Alors que dans Exode, s'il s'approchait, c'était la mort. OK? Et donc, manquez pas ici la force de la vérité qui est transmise, c'est-à-dire tout l'arrière-plan intransigeant de l'ancienne alliance a pour but de nous faire apprécier la grâce merveilleuse de la nouvelle alliance. Le point de l'ancienne, c'est « Je suis Dieu, je suis saint, je suis inaccessible aux humains. » C'est pas très invitant, là. Mais c'est ça l'idée, c'est de dire « Vous avez besoin d'un médiateur. Vous pouvez pas venir à moi juste comme ça. » Savez-vous quoi? Tout le monde qui dit qu'il a reçu Jésus comme son sauveur a reconnu ça comme besoin principal. Je ne peux pas aller à Dieu avec mes bonnes œuvres, avec mes bonnes intentions, avec la bonne religion, avec ce qui est de l'humain. Ça part pas d'en bas, il faut que ça parte absolument d'en haut. Donc c'est important, c'est fondamental. Il faut jamais négliger, oublier ça. La sainteté inaccessible de Dieu. On ne peut pas aller à Dieu juste de même. Ou moi, je suis une bonne personne, puis il n'y en a pas de bonne personne aux yeux de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. OK? Et c'est ça le point ici. Mais quand je dis que ça nous fait apprécier la Nouvelle Alliance, regardez encore des paroles ici qui sont de la Nouvelle Alliance dans Éphésiens chapitre 2. C'est pourquoi autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main des hommes. Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Déjà qu'avec Israël ici, tout n'était pas idéal. Imaginez-vous ceux qui n'étaient même pas du peuple d'Israël. Ça, c'était nous. On s'était comme ça. Mais on a un autre « mais » ici. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de la croix. Car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Et donc, on peut être rapproché par le sang de la croix. Tout est par rapport à cette croix. Et est-ce que tu peux affirmer avec conviction, pas juste parce que tu sais que c'est la bonne réponse à donner dans ta tête, mais avec conviction dans ton cœur, que tu connais, que tu apprécies, que tu trouves ton réconfort dans le fait d'avoir été rapproché de Dieu, ou tu n'es pas certain? Est-ce que tu as expérimenté ce qu'on voit dans Colossiens, chapitre 3, verset 13? « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. » Est-ce que tu as eu la grâce de Dieu pour toutes tes offenses? Ou comme le dit un cantique, « Es-tu lavé dans le sang de Christ? » As-tu la conviction dans ton cœur, pas parce que tu es une bonne personne, mais parce que tu as la foi dans le bon Dieu, que tu n'as aucune condamnation pour toi? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et savez-vous quoi, une question de même, là, on ne peut pas se permettre d'être sa clôture. Ouais, peut-être, oui. Non, parce qu'une question éternelle, pour ta destinée éternelle, pour ton âme éternelle, il n'y a pas de question plus importante. Le reste, la Bible dit, c'est une vapeur, c'est de la vanité, c'est la poursuite du vent. Il n'y a pas de question plus importante que celle de notre âme éternelle. Et tu peux la résoudre maintenant parce que Dieu lui-même a ouvert la porte. Et on a ça aussi dans une symbolique qu'il nous donne avec l'Ancien Testament dans Hébreux au chapitre 10. Où est-ce que ça dit? « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, c'est toujours ça qui revient, une libre entrée dans le sanctuaire. » Par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Dieu a ouvert la porte pour que tu puisses entrer. Et ça, c'est unique, c'est incomparable. Il n'y a pas de religion de même. Je vois quand même pas mal de gens d'autres religions, là, et que c'est compliqué, la religion. On n'est jamais certain, il faut toujours en faire un peu plus. Puis même quand on en fait plus, on est quand même sur la corde raide. Mais la Bible, c'est tout à fait différent de ce qu'elle dit. Par exemple, Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. « Étant donc justifiés par la foi en Jésus, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons eu d'avoir par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Puis encore Éphésiens 2, ça dit que Jésus est venu nous annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père par un même esprit. Donc oui, Dieu est inaccessible de par nos propres moyens, puis c'est tout le point d'Exode 19, mais il a ouvert l'accès lui-même, et c'est le seul moyen d'accéder à Dieu, c'est par sa grâce, c'est par le chemin, la route nouvelle et vivante que Jésus lui-même a tracé en allant sur la croix, en nous faisant grâce de toutes nos offenses, et ce qu'on a maintenant, c'est à l'accepter. Et pour les enfants de Dieu, on est appelé à vivre à la lumière de cette grâce, à la lumière du fait que maintenant, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. C'est ma question. Est-ce que tu acceptes ton acceptation? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui peut se reposer de ses œuvres, comme quelqu'un qui est dans le bien-aimé, qui est aimé de tout l'amour possible et imaginable, parce que c'est l'amour infini de Dieu? Est-ce que c'est ton repos? Est-ce que c'est ta valeur refuge? Et c'est pas anodin, parce que sinon, tu es un chrétien qui marche sur l'adrénaline spirituelle, tout le temps stressé, puis essayer de faire plus, puis c'est pas assez. La sanctification par les œuvres, c'est tellement pas... C'est pas reposant, littéralement. Mais par la foi, c'est toute la différence. Donc, c'est la première chose. La gloire de sa sainteté inaccessible. Puis l'autre, ben c'est pas bien mieux. La gloire de sa sainteté intransigeante. Et donc, on a une bonne mauvaise nouvelle avant d'arriver à la bonne nouvelle. Fait qu'appréciation comme il faut, la mauvaise nouvelle. Puis là, on va pas lire un passage, ça serait trop long, mais dans le chapitre 20 qui suit dans Exode, c'est ce qu'on appelle le décalogue. Ça, c'est pas comme le catalogue Canadian Tire ou distribution aux consommateurs, là. Le décalogue, ça veut dire les 10 commandements. OK? Déca, c'est 10. Log, c'est loi. La loi en 10. La 10 loi, non. Les 10 paroles, c'est vraiment ça, littéralement, l'idée de décalogue. La gloire de sa sainteté intransigeante. Donc, qu'est-ce que les 10 commandements nous révèlent? Ben, la sainteté de Dieu, puis savez-vous quoi? C'est pas mitigé. C'est pas négociable, c'est bien, si ça te tente, tu feras pas d'autres dieux devant ma face. Mais non, c'est comme, t'auras pas d'autres dieux devant ma face. Puis là, tu sais, les commandements sont donnés, sont gravés sur le roc, littéralement. C'est le point, c'est ça change pas. C'est non négociable, tu peux pas essayer de te faire un arrangement avec Dieu. C'est les 10 commandements, c'est intransigeant. Autrement dit, si je vais par les 10 commandements, avez-vous déjà entendu ça? Ah, moi, j'essaie de vivre par les 10 commandements. OK. Si on embarque là-dedans, là, ben, si je veux être avec Dieu, avoir sa faveur là, par les 10 commandements, il faut que je sois all-in, sinon je suis all-out. Il faut que tu sois parfait. Voie à l'échec, c'est sûr et certain, parce que c'est tout le point, justement, des 10 commandements. On n'est pas capable de les garder. Et là, je vous amène la lumière de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament là-dessus. La loi est-elle donc la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Là, je suis dans Galates 3, verset 21. Loin de là, s'il avait été une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un pédagogue, pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant donc venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, la Nouvelle Alliance nous montre le rôle de la loi, c'est un rôle temporaire pour nous amener à Jésus. La loi est celle qui nous montre notre besoin d'un sauveur. C'est la loi qui nous amène à voir que là où le péché abonde, puis c'est ça le but de la loi, de montrer que le péché abonde, la grâce surabonde. Ça nous amène à cette conviction de notre besoin de la grâce de Dieu. Et remarquez que ça nous parle à la fin de ce que j'ai lu d'être revêtu ou nu. Puis d'ailleurs, il y a on l'a lu tantôt, mais Hébreux 14, 13, ça dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Devant Dieu, il voit tout. On ne peut pas faire de cachette. Et donc, ma question, es-tu revêtu de Christ? Et ça aussi, on a un cantique là-dessus, vêtu de Christ. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Peut-être qu'on chante la semaine prochaine. Donne des idées à Dave. Es-tu couvert, vêtu de la justice parfaite de Jésus? Devant Dieu, trois fois saint, c'est la seule chose qui tient. Parce que notre justice, elle est comment? Comme un vêtement souillé. Par rapport à ça, c'est vrai pour la justice de notre chair, de notre justice propre. Ça ne tient pas plus. La seule justice qui plaît, qui va plaire à Dieu pour toute l'éternité, c'est celle de Christ. La question, c'est si je en suis revêtu et si je marche en elle par la foi, c'est comme ça que je peux plaire à Dieu. Point de départ et pour toute la suite aussi de la vie chrétienne. Les 5 commandements de Dieu, les 10 commandements, ne peuvent que te montrer, ou même, je dirais, te prouver ton échec. C'est ça le but. Dire qu'on a échoué, qu'on n'a pas gardé la parole de Dieu. Aussi motivé puisse-t-on être. Il n'y en a pas un dans toute l'histoire de l'humanité. Tu peux bien t'essayer si tu veux, là, mais ça ne marchera pas. Donc, reste pas à ce point-là, mais reçois celui qui a performé pour toi, celui qui a dit « tout est accompli ». Tu n'as pas besoin de tout accomplir. Jésus a tout accompli pour toi. Ce n'est un autre cantique. « Tout est accompli pour moi ». Cool, donc j'ai donc bien des cantiques dans le cœur aujourd'hui. Et là, c'est pareil pour un enfant de Dieu. On est délivré de la mentalité de la performance, du fardeau d'essayer de plaire à Dieu par la foi, par nos œuvres. On peut entrer dans le repos de Dieu. Et donc, en toute chose, par la foi, nous sommes appelés à nous confier dans la miséricorde de Dieu. Et c'est le troisième point, là, c'est le cœur. J'ai besoin de toute votre attention. Il me reste à peu près une dizaine de minutes. Êtes-vous capable de me donner ça? J'avais des points importants à amener, mais là, on arrive vraiment à la gloire de sa sainteté miséricordieuse. Alors, moi, je ne voulais pas qu'on parle de miséricorde, là. On parle d'un bon message de condamnation aujourd'hui. Mais je pense que c'est une bonne idée qu'on considère ensemble la miséricorde de Dieu. Et ça, on a ça dans Exode 34. J'avais-tu donné la référence? Exode 34. Versets 5 à 7. Un petit passage, mais je vais vous donner le contexte dans un instant. On va juste le lire, je vais vous l'expliquer après. L'Éternel descendu dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » La gloire de sa sainteté miséricordieuse. C'est important ici de noter que cette révélation unique, là, c'est, bon, dans le contexte, c'est Moïse qui voulait voir la gloire de Dieu. Il dit, « OK, mais tu ne pourras pas me voir face à face, je vais passer devant toi. » Puis bon, il se révèle ici comme étant le Dieu de miséricorde. C'est unique, c'est puissant, mais c'est important de se rappeler que c'est après l'horrible épisode de Exode 32. Le veau d'or, l'idolâtrie, et c'est même repris dans le Nouveau Testament en disant qu'il se levant pour se divertir, puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était pas beau. C'était très païen, puis OK. Ou on peut le mettre dans la perspective actuelle et moderne. Dieu, après avoir constaté l'état lamentable de notre société, de notre beau Québec misérable, de notre monde enfui dans le gouffre de la rébellion, et de tout ce qui est contre Dieu, de toute cette technologie, cette distraction, cette culture du divertissement, Dieu se révèle encore aujourd'hui par la même croix. La croix du calvaire, c'est la plus puissante révélation de sa gloire et évidemment de sa miséricorde. Et il n'est pas banal de noter encore avec le contexte ici de ces versets que Dieu renouvelait l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que avec les événements qui étaient arrivés, Moïse avait brisé les tables de la loi. Vous savez-vous que, fait que là, Dieu il a donné un deuxième set, OK? Il y avait des tables de rechange, là. Donc, les tables de la loi avaient été brisées. Mais savez-vous quoi? Avant de les briser sur le sol, celles qui étaient écrites sur la pierre, Israël les avait brisées dans son cœur et c'était là le problème. Ça, les tables de pierre, c'était juste la manifestation de la réalité intérieure. Mais pourquoi? Là, je vous pose une question théologique. Si l'ancienne alliance, et là je vous le dis sur le poids du Nouveau Testament, était vouée à l'échec, C'était passager. C'était voué à disparaître. Okay? C'est ce que ça dit sur l'ancienne alliance. Ben pourquoi Dieu l'a renouvelé si c'était voué à l'échec anyway? Je vous ai déjà posé la question. Tu sais, je veux dire, il avait pris la première, puis là, Dieu, ben, il a quand même ordonné un deuxième set. T'sais. Il a renouvelé ce qui était voué à l'échec. La réponse, c'est sa patience. Et encore là, je ne vais pas vous inventer ça. Écoutez, puis là, Romains 3, 25-26, c'est théologiquement super pesant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est lui que Dieu a destiné à être, là, ça nous parle de Jésus, là, Romains 5, 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer, ne manquez pas ça, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc la réponse à notre question, c'est parce que Dieu usait de patience, puis c'était en attendant la croix. Mais ne manquons pas le verset 26, à la fin du verset 26, ça dit « de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi ». Il y avait un dilemme théologique énorme. Dieu, avec sa sainte loi, son saint caractère qui est révélé dans la loi, devait punir le pécheur. Sinon, il aurait été lui-même contre sa propre parole parce qu'il dit que celui qui pêche, il doit être puni. Il doit avoir la conséquence. Ça, c'est la justice de Dieu. Okay? Mais ce que Romains 5, 26 nous dit, c'est qu'avec la croix, Dieu est demeuré juste, mais justifie ou fait grâce, miséricorde, à celui qui a la foi. Pas la foi en lui-même, pas la foi, mais la foi en Jésus, en celui qui est mort à sa place. Ça réconcilie la justice et l'amour de Dieu. C'est le grand dilemme de la rédemption qui est résolu. Et on a ça ici dans Romains, au chapitre 3, versets 25 et 26. Une importance théologique rédemptrice immense, parce que c'est le moyen, il n'y en a pas d'autre. Il n'y avait pas comme, ah ok, la croix c'est une bonne idée, mais peut-être je pourrais aussi avoir un autre. Non, il y a juste la croix. Juste le Fils de Dieu qui prend un corps, qui s'incarne, qui vit parmi nous sans péché et qui meurt, lui, juste pour nous les injustes. Il n'y avait pas d'autre façon, la croix du calvaire, pour résoudre ce problème autrement. Irrésolvable ou irrésoluble? Irrésolvable. C'est décrété. C'est pour ça que ça nous dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 5, que Dieu... C'est selon son bon plaisir qu'il nous a fait miséricorde et grâce. Et ça nous dit aussi que Dieu aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Jésus à deux reprises a cité ça aux pharisiens. On va en parler dans un instant de nos pharisiens, mais Dieu aime la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. Et Jésus a dit aux pharisiens, allez, là, quand il dit ça, il parle aux pharisiens, allez, apprenez ce que signifie, puis là, il cite Osée 6:6. Je prends plaisir à miséricorde et non au sacrifice, car je suis venu, là Jésus dit ça, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Ça, c'est les deux passages du Nouveau Testament, dans Matthieu, où est-ce que Jésus condamne ceux qui n'ont pas de miséricorde. On s'en va à quelque part avec tout ça. Dieu prend plaisir à la miséricorde, et c'est un concept que nos amis pharisiens, on aime nos ennemis, là, n'avaient pas du tout compris. En fait, ils étaient sous l'emprise, sous le carcan de la loi et de sa mentalité de performance et de mérite. C'est pour ça que Jésus, quand il les donne en illustration, il y en a un qui prie, « Je te remercie que je fais ci, puis je fais ça, puis que je ne suis pas comme ce publicain. » C'est toute la mentalité ici qui est tellement bien illustrée par Jésus lui-même. Mais quand on y pense, cette pensée légaliste, ce système théologique erroné est tout à fait contre la sainte miséricorde de Dieu. Parce que le problème des pharisiens, c'est pas parce qu'ils connaissaient pas la parole, c'est parce qu'ils manquaient le cœur de la parole, le cœur de miséricorde de Dieu. Parce que oui, Dieu est un Dieu saint et juste. Puis ça, ils comprenaient ce bout-là. Mais ils ne comprenaient pas l'autre partie. Dieu est tout ça. C'est pas un que Dieu est un jour puis l'autre. Non, Dieu est complètement tout ça. Et comme je dis, c'est parfaitement révélé et réconcilié dans la croix du calvaire. Maintenant, j'ai une conclusion unique. J'ai hâte de vous la partager. Ou on arrête ça pour un roast beef, on s'en va chercher ça dans le four.
Ça en vient tard.
Ça en vient tard, hein? Je vous demande 5 minutes de votre temps du dimanche. C'est la journée du Seigneur, fait que c'est pas notre temps anyway. Mais écoutez Jacques, au chapitre 2, les versets 12 et 13. « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. » C'est bizarre, hein? « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. » Vous avez-vous déjà gratté la tête en lisant ce passage-là? Moi, oui, là. Ben, ça semble un peu contradictoire. Juger par une loi de liberté. C'est un peu... Voyons, c'est quoi cette... Là, on pourrait dire, ben, c'est probablement quelque chose de négatif. Non, parce que dans le même épître, dans Jean, au chapitre 1, verset 25, elle nous est dépeinte, cette loi de liberté, de façon positive. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est quoi cette fameuse loi de liberté? Voulez-vous qu'on en parle un peu? Je vais vous l'illustrer. Relationnellement. Et si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Non, savez-vous quoi? En observateur, vous allez tout pouvoir comprendre. Une relation parent-enfant. Parlons un peu de ça, ça va nous aider à comprendre c'est quoi cette loi de liberté. L'enfant, là, dans une relation parent-enfant, qu'il soit tout petit, puis plus grand, puis plus on est grand, moins c'est vrai, parce que là, on devient plus adulte, mais ça reste quand même vrai. L'enfant est sous la loi de la liberté. OK? Puis voici ce que ça veut dire. L'enfant, là, il ne contribue pas financièrement à la famille. André, as-tu sa pension alimentaire? Étienne, as-tu commencé? Mathias? Ils sortent les poubelles, ils ont 25 cents, puis ils leur donnent à papa et maman. Ça sort de la poche gauche à papa, ça rentre dans la poche droite. Non, ils ne contribuent pas, OK? Puis on va mettre ça, tu sais, performance de l'argent. Vous pouvez faire les parallèles, là. OK, on va y aller avec l'argent, c'est plus facile, là. Mais savez-vous quoi? Cet enfant, heureusement, il est quand même accueilli puis accepté comme étant partie intégrante de cette famille. J'espère. Mais si on rappelait à cet enfant constamment qu'il est endetté envers les parents, hey, tu sais, on te fait vivre gratuitement, là, hein? Ben, ça y enlèverait la liberté. Il n'y aurait plus cette joie de juste être un petit enfant dans sa famille, puis, OK? Fait que, juste le fait de prendre ça pour acquis, puis de dire, ben oui, il y a cette loi de liberté dont l'enfant jouit, OK? Mais si on y rappelait tout le temps, là, on serait dans la pensée de performance pharisien, OK? Là, on rentrerait dans la mauvaise façon de penser. Mais, le fait est que l'enfant est libre. Pourquoi? Parce que il n'a pas contribué d'argent. OK, on vient de le dire. Mais que doit-il faire, cet enfant? Que doit-il faire de sa liberté? Bien, il doit simplement l'utiliser pour plaire volontairement et faire plaisir à ses parents par son attitude. OK, c'est ce que, n'est-ce pas, des parents veulent. Puis même un enfant, c'est ce qu'il veut. Mais bon, il y a le péché qui s'en mêle. Bon, une attitude soumise, volontaire, joyeuse. OK? Ça, c'est le plan idéal. Là. Mais vous allez voir, on va arriver à des conclusions avec tout ça. Donc, nos enfants. Si on juge nos enfants selon la loi de la liberté, on va leur permettre de rien faire, mais de quand même les aimer. Et en même temps, on va les recevoir favorablement et les récompenser lorsqu'ils font quelque chose de bon cœur. C'est spécial, hein? C'est ça, la loi de la liberté. C'est quand même un bon deal. L'enfant, il a un bon deal, là. Bien, avec Dieu, c'est ça. Dieu n'a pas besoin de rien de nous autres. Il n'a pas besoin de donner de l'argent pour qu'il nous aime, puis OK? Mais quand on fait de bon cœur, Dieu, je t'aime, puis je suis content, c'est ça toute l'idée. C'est vraiment cette relation... Parent-enfant, on peut dire père éternel avec enfant de Dieu. C'est ça l'idée de la loi de liberté. C'est La réponse au cœur bon et miséricordieux de notre Père Saint qui nous aime. Et là-dessus, je vais vous amener un verset que vous allez peut-être voir différemment à la lumière de ce que je viens de vous expliquer. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, évidemment, ça parle de Dieu, et ça parle aux enfants de Dieu ici, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Si Dieu a une sainte miséricorde envers nous qui nous juge selon une loi de liberté, on est appelé à faire la même chose les uns avec les autres. Et savez-vous quoi? Si on reflète ça, cette sainte miséricorde va triompher du jugement. Ça veut dire qu'on ne juge pas le péché et qu'on fait semblant qu'on n'a pas de problème, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais la miséricorde triomphe du jugement. On voit au-delà, on voit la croix, on voit le Dieu qui s'implique là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça que ça veut dire. J'espère que je vous ai aidé un petit peu à comprendre plus, mais je vous amène trois petits éléments qui vont nous aider à voir comment Dieu nous traite de même, là. Selon la loi de liberté. Mais d'abord, Dieu nous donne une liberté qui est sainte. Quand on est en Jésus, là, l'Esprit, ça nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Quand on est dans le Seigneur, on a une liberté qu'on n'avait jamais connue avant. Pas la liberté de péché, mais du péché. Not freedom to sin, but from sin. On dirait que c'est plus clair en anglais. Puis aussi, Dieu nous libère de la fausse liberté. Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Loin de là, je veux dire, c'est ça. Ah ouais, moi je suis libre, je vais faire n'importe quoi. Ben non, tu vas devenir esclave. Okay? Donc Dieu nous donne une liberté sainte et nous libère de la fausse liberté, celle qui n'est pas sainte. Et aussi, écoutez Galates 5:13, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs, les uns des autres. Dieu nous donne l'occasion de vivre cette liberté qui surmonte la puissance de la chair, parce que si on marche par l'esprit, on ne va pas accomplir des désirs de la chair. Donc c'est une belle liberté, c'est une liberté qui est libérante, qui est bienfaisante, qui est sainte, parce qu'elle vient de Dieu. Un dernier verset dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jésus nous a libérés pour qu'on puisse expérimenter pleinement cette liberté. Alors, enfants de Dieu, embrassons pleinement cette liberté. Elle est en nous, elle vit en nous. Son nom, c'est Jésus. Il est notre liberté, il nous l'a acquérie et c'est lui qui vit en nous. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas encore accepté cette libération de cette condamnation qui repose contre vous d'un Dieu trois fois saint, il n'y a rien qui justifie que vous restiez dans cet état-là parce que tout est accompli. Jésus est venu pour que vous soyez libérés. Et je termine avec Hébreux. Écoutez bien. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il a aussi lui-même participé. Excusez, j'ai une araignée qui est descendue sur mon message. Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes encore esclave. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est la réalité. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte à cause de la puissance de la tromperie, mais c'est la réalité. Si je ne suis pas libéré, je suis esclave. Esclave de moi-même, esclave de ci, esclave de ça. Vous avez besoin d'être affranchi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Merci Seigneur pour ta parole vivante, efficace. Merci que l'efficacité ne repose pas dans la performance de celui qui la délivre, parce que sinon on serait mal pris, mais dans la puissance de toi, Esprit du Dieu vivant, qui travaille d'une façon inouïe et extraordinaire. Merci Seigneur que ce matin, tu es à l'œuvre. Et cette œuvre rédemptrice que tu as commencée dès le début de l'histoire de l'humanité avec nos deux premiers parents, tu ne l'as jamais arrêtée et encore aujourd'hui, elle est en œuvre. tu délivres. Tu délivres les pécheurs de la mort, tu délivres de l'esclavage. Et merci que tu délivres aussi ton peuple. Donc, on veut te louer, Seigneur, pour la liberté en Jésus. Et que, Seigneur, on peut venir à toi maintenant avec un plein accès. Pas parce qu'on mérite ou qu'on a fait mieux que d'autres, mais parce que Jésus est notre mérite, que lui a fait ce que personne d'autre n'a jamais fait. Oh, on te loue, on te bénit. Merci, Seigneur, que personne ne paraisse être venu trop tard. Que tout le monde ici soit certain d'avoir le plein pardon de tous ses péchés par Jésus, par la croix du calvaire. Et que nous, tes enfants, on marche en pleine assurance dans cette grâce qui nous a été faite. Merci, Seigneur, pour ce temps béni, au nom de Jésus. Amen.